Vous écoutez France Culture.
Le Salon Noir. Intelligence avec l'ennemi. Que peut nous révéler aujourd'hui la lecture de vieilles pages jaunies, de revues d'archéologie décrépies, un passé insoupçonné, autant inattendu que dérangeant. Qui se souvient du procès-verbal de la séance du 26 octobre 1944 du bulletin de la Société préhistorique française ? Personne. Pourtant, deux lignes sont édifiantes. Saint-Just Pécard, ancien président de la Société préhistorique française, condamné comme milicien par la cour martiale de Montpellier et fusillé le 11 septembre 1944. Intelligence avec l'ennemi. L'archéologie française a-t-elle collaboré ? Oui. Plus que d'autres sciences ? Oui. On se souvient de Georges Montandon, anthropologue qui prôna l'antisémitisme scientifique, abattu par la résistance le 3 août 1944. Qui sont pour autant les archéologues qui collaborèrent ? Nombre d'entre eux ont-ils poursuivi brillamment leur carrière après 1945 ? Les archéologues d'aujourd'hui pourraient-ils même être les héritiers indirects de quelques thèses nazies ? 70 ans après, point de chasse aux sorcières dans le Salon Noir de France Culture. Ce qui nous intéresse est la diversité des raisons qui ont poussé des hommes à servir, avec plus ou moins de conviction, le régime nazi. Laurent Olivier, bonjour.
Bonjour Vincent.
Conservateur en chef du patrimoine, en charge des collections celtiques et gauloises au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Vous vous êtes intéressé, voici quelques années, à l'archéologie nazie. Aujourd'hui, vous allez plus loin encore avec nos ancêtres les Germains, les archéologues au service du nazisme, publié chez Taillandier. Intelligence avec l'ennemi. J'ai travaillé voici bien longtemps sur une de ses personnalités. Intellectuel, pionnier de la préhistoire, tour à tour banni puis réhabilité, toujours sans discernement, nous y reviendrons. Toutefois, rappelons que le sujet est brûlant d'actualité. Votre livre est donc une formidable enquête. Laurent Olivier, allons tout droit au but. Les archéologues allemands ont-ils été nazis ?
Les chiffres sont malheureusement implacables. 86% des archéologues sont membres du parti nazi. Parmi eux, il y a 20% de nazis historiques entrés au parti avant 1933, les fidèles. Un quart d'entre eux sont dans la SS. L'engagement des archéologues au service du nazisme est c'est le corps socio-professionnel le plus engagé politiquement. Juste derrière les services secrets et la garde personnelle de Hitler.
Et les juges. Donc, les juges et ensuite les archéologues. Pourquoi ?
Parce que, je vais peut-être dire des choses dérangeantes, mais parce que l'archéologie nazie, le Troisième Reich, est un formidable tremplin pour les archéologues allemands en 1933. Les crédits sont multipliés par 10, les chaires d'archéologie sont démultipliées partout, on crée des services d'archéologie partout. Bref, il y a la possibilité de travailler à grande échelle sur l'ensemble de l'Europe et ces possibilités sont démultipliées encore après la victoire allemande de 1940.
Alors Laurent Olivier, faisons un bond dans le temps. Est-ce que cette histoire doit s'écrire au présent ?
Oui, bien sûr. Oui, c'est la particularité justement de cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, point de chasse aux sorcières dans le Salon Noir, la question n'est pas de savoir qui était un peu nazi, beaucoup nazi, énormément nazi. La question, c'est celle de la filiation et de la transmission de cet héritage. Par-delà 1945, dans la continuité des carrières des intellectuels qui se sont mis au service du Troisième Reich et qui ont transmis aux générations venues après des méthodes, des problématiques, une démarche qui a donc largement survécu à l'effondrement du Troisième Reich.
Alors comment s'organise l'archéologie sous le Troisième Reich ? Visiblement, nous aurions affaire à une sorte de polyarchie. Il y a plusieurs têtes nazies archéologues.
Oui, alors ça, c'est une des grandes caractéristiques qui est d'ailleurs souvent difficile à comprendre de l'organisation de l'État nazi, c'est qu'effectivement, il y a toujours plusieurs centres qui s'occupent de la même chose. C'est le cas de l'entreprise d'extermination, par exemple. Et pour l'archéologie, en fait, à l'origine, c'est une prérogative de Rosenberg et du parti nazi qui crée l'Amt Rosenberg et ce qu'on a appelé le Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte, l'Institut du Reich pour la préhistoire allemande. Cet organisme a le vent en poupe dans les années 30. Mais il se trouve bientôt, avec les victoires allemandes, il se trouve bientôt en rivalité avec Himmler, qui a créé lui-même sa propre structure, qui s'appelle SS Annenerbe, et qui est l'institut scientifique de la SS. Et en fait, ces deux organismes vont s'affronter dans une lutte sans merci, par l'intermédiaire de leurs deux archéologues stars, qui sont d'un côté Herbert Jankun pour la SS, et Hans Reinhardt pour le parti nazi et l'Amt Rosenberg.
Alors, il faut dire aussi que l'archéologie nazie a un père spirituel, Gustav Kosina.
Oui, alors Kosina est l'inventeur, c'est un philologue en fait. Il meurt avant l'accession des nazis au pouvoir, mais son
1931.
Influence, oui, absolument, mais son influence est absolument essentielle sur la discipline et au-delà d'ailleurs de l'idéologie nazie. Il est l'inventeur de l'idée, enfin il développe le concept de ce qu'il appelle l'archéologie du peuplement, la Siedlungsarchéologie, qui repose sur l'idée qu'on peut exploiter les témoignages de l'archéologie, les vestiges matériels, comme la preuve de la présence de groupes raciaux particuliers, donc des groupes germaniques.
D'identité ethnique.
Voilà, c'est une archéologie identitaire, qui pour dire son nom. Et en fait, ça devient entre ses mains et entre les mains des nazis ce qu'ils appellent une science combattante. C'est-à-dire que si on peut prouver dans des territoires qui aujourd'hui ne sont pas occupés par des Allemands la présence de vagues de colonisation raciale, avec des énormes guillemets, germaniques, l'archéologie donne du coup une légitimité aux entreprises d'annexion et de repeuplement de ces pays. Elle-même, plus précisément, elle en dresse précisément la carte, les limites des zones qui doivent être recolonisées par des souches raciales pures dans l'esprit des technocrates du Troisième Reich.
C'est lui aussi qui, par exemple, travaille sur les races des seigneurs, les fureurs rasseux, c'est ça ?
Oui, alors il y a cette idée que, en fait, une race, ça n'est pas seulement des composantes biologiques, mais que c'est aussi ce qu'ils appellent un esprit racial. Et donc, l'esprit racial germanique, ça se caractériserait par une organisation sociale très particulière qui serait dominée par des chefs de guerre, des fureurs, pour les appeler par leur nom, qui régneraient sur des vastes communautés agricoles, qui développeraient un armement performant, utiliseraient les premiers le cheval à la guerre, développeraient l'écriture. Bref, que ce serait cette race supérieure qui aurait inventé la civilisation et non pas les sémites d'Europe, de Méditerranée orientale.
Ou du Proche-Orient. L'idéologie pan-germaniste est basée sur le Völkisch, c'est bien ça ?
Oui.
C'est-à-dire l'identité par le sang héréditaire ?
Voilà, c'est cette idée, c'est l'idée qu'alimente la préhistoire et l'archéologie, qu'en fait, il y a eu, dès l'origine, dès la préhistoire, il y a eu des souches raciales, encore une fois avec des guillemets, puisque c'est un fantasme, des souches raciales germaniques, et qu'elles auraient transmis de génération en génération, c'est un modèle très inspiré de la biologie, elles auraient transmis de génération en génération non seulement des traits héréditaires biologiques, mais aussi des traits culturels, ce qui permettrait de restituer, depuis le présent, toute la chaîne de transmission jusqu'aux origines du peuplement dans la préhistoire.
Alors, il y a bien sûr le sang, mais il y a aussi le sol nourricier. L'un ne va pas sans l'autre.
Oui, c'est ça. C'est cette idée que, en fait, la race germanique est liée à un territoire particulier dans lequel elle s'est répandue. En gros, c'est l'ensemble de l'Europe et ses marges.
L'archéologie a-t-elle réellement contribué à la politique idéologique de l'État nazi, Laurent Olivier ?
C'est un élément clé. En fait, on ne comprend pas ce qui constitue l'essence du nazisme si on ne se rend pas compte que c'est un projet révolutionnaire. C'est l'idée de renverser un ancien ordre, de l'éliminer physiquement, matériellement, pour le remplacer par un autre. Et dans cette perspective, l'archéologie s'inscrit dans une dimension essentiellement pluridisciplinaire, ce que montre l'organisation de la Annenerbe, qui dans lequel on retrouve des recherches aussi bien sur l'ethnomusicologie que sur l'astrologie, que sur la biologie et jusqu'aux terribles expériences médicales, entre guillemets, des camps d'extermination. Donc l'archéologie est un des éléments de cette politique. Et il n'est absolument pas un hasard qu'elle soit tout de suite prise en main, d'abord par le parti nazi et puis surtout par Himmler, qui est le grand architecte de l'extermination. C'est un des éléments de cette politique. Autant les démographes et les géographes retracent, réécrivent le futur, redessinent la future population de l'Europe à coup de déplacements forcés, de populations, d'extermination, autant symétriquement les archéologues nettoient le passé et réorganisent une histoire de la préhistoire européenne dominée depuis toujours par la race supérieure germanique.
Alors que cherchent-ils ces archéologues appartenant à la SS, du moins en Allemagne pour commencer ?
Ils cherchent à démontrer de manière systématique que, en fait, le territoire allemand a toujours été occupé depuis la préhistoire par des groupes ethniques qui appartiennent à la race indo-germanique. C'est ça leur obsession. Et puis surtout, ils cherchent à montrer que les différentes phases d'évolution qu'on observe dans la préhistoire et la proto-histoire, le développement du néolithique, l'apparition d'élites aristocratiques, le développement des enceintes fortifiées, tout ça, c'est lié à des vagues d'expansion périodique de la race germanique. Et qu'en fait, le territoire de l'Allemagne est la propriété exclusive depuis le début de cette pseudo-race supérieure aryenne.
Alors la France est bien sûr un formidable nouveau territoire pour les archéologues allemands. Les voici donc à Entremont, à Nice, à Vix, par exemple en Bourgogne, mais aussi à Carnac. Carnac est intéressant car ces grands tumulus sont pour l'archéologie nazie la preuve de l'émergence de sociétés inégalitaires, bien sûr d'origine germanique.
Oui. Alors justement, on va aller rechercher des correspondances, des rapprochements entre les gravures, par exemple, du tumulus de Gavrinis et puis la rue de Scandinavie pour montrer que en réalité le phénomène mégalithique est dérangeant pour l'esprit de l'archéologie nazie, puisque c'est quelque chose de monumental, mais c'est quelque chose qui manifestement n'est pas germanique. Ils veulent réécrire cette histoire en démontrant qu'au contraire c'est lié à des mouvements de peuples venus par la mer de Scandinavie, où on recherchait justement le berceau de cette race supérieure aryenne.
Alors les contacts sont pris de longue date avec bien sûr des archéologues français.
Immédiatement après 1933, ça commence. Et en fait, ce qu'il faut bien envisager, c'est que la France correspond à une nouvelle frontière, en fait, dans la perspective nazie. Il y a une masse de matériaux qui sont difficilement accessibles, qui sont publiés en français, dans des petites revues. La plupart des archéologues en France sont des amateurs, comme on le sait, qui publient peu ou de manière confidentielle. Et donc, il y a tout un travail de réappropriation de la préhistoire, en particulier française. Parce que ce qu'on veut démontrer, c'est que de tout temps, à l'ouest du Reich, il y a eu des vagues de colonisation germanique, des vagues de peuplement aryen, et que la France a toujours été, par définition, une terre d'élection pour la race germanique.
Alors, curieusement, Carnac, des nazis, et puis des autonomistes bretons, qui étaient déjà, d'ailleurs, en Allemagne, à Berlin.
Oui, alors ça fait partie effectivement de la politique du Troisième Reich avant la guerre, avant 1940. Il s'agit, comme le dit Hitler lui-même, de détruire l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire de retourner ses propres minorités nationales contre lui. Donc il y a tout un travail qui est effectué à l'origine par les autonomistes lorrains et alsaciens qui tissent des liens avec leurs confrères des Flandres qui revendiquent l'identité germanique des Flandres françaises, et puis aussi avec les autonomistes bretons qui voient là une formidable opportunité de s'émanciper de la France dominatrice. N'oublions pas les Basques également.
Et les Corses. Bien sûr. Nous avons de fait affaire à une sorte de aryanisation de l'archéologie française.
Oui, c'est ça l'idée. L'idée qui est absolument fantastique quand on relit ça à 70 ans de distance, c'est une réécriture fondamentale de la préhistoire française pour en faire une préhistoire exclusivement germanique. Depuis le paléolithique, on s'intéresse même aux découvertes de bouchées de perles dans les terrasses de la Somme, jusqu'évidemment aux grandes invasions du haut Moyen-Âge. L'idée est de montrer que, de tout temps, si la France est occupée aujourd'hui par une population raciale, ou en tout cas pas majoritairement germanique, en fait, en réalité, elle l'a été dans le passé, et qu'il s'agit donc de restaurer cet ordre ancien.
Donc ce n'est pas les Gaulois qui comptent, ce sont les Germains.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on cherche à démontrer, par exemple, que les Gaulois posent un cas délicat à l'archéologie nazie, parce qu'effectivement, on a des témoignages d'occupation celtique sur le territoire de l'Allemagne, en Bade-Wurtemberg, par exemple, d'Allemagne du Sud-Ouest. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que dans le passé, le territoire de l'Allemagne aurait été occupé par des Celtes qui auraient dominé les Germains? Ce qu'on cherche à démontrer, c'est à renverser le processus, c'est à montrer que les Celtes, en fait, sont une branche des Indo-Germains, et qu'en réalité, les innovations décrites par César, comme le fameux Murus Gallicus,
le mur gaulois,
avec ses poutrages de bois rencontrés précisément sur le territoire de la Gaule, eh bien, ça a des antécédents. Ça n'est pas une innovation des Gaulois, ça a été inventé par des peuples indo-germaniques en Rhénanie. Et donc, ça n'est qu'une adaptation d'une innovation qui, elle, est vraiment attribuable aux Germains.
Laurent Olivier, pour nos auditeurs de France Culture et du Salon Noir, je rappelle que vous êtes conservateur en chef du patrimoine au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, que vous êtes l'auteur de « Nos ancêtres, les Germains », publié chez Taillandier. Évoquons peut-être un nom d'un Français, devrais-je dire, non, d'un Bourguignon.
Johannes Thomasset.
Johannes Thomasset, c'est bien ça, grande figure donc de cette archéologie de cette période.
Alors c'est intéressant parce que Thomasset, en fait, c'est un préhistorien, en fait, c'est le spécialiste du site de Chassé, du fameux site néolithique de Chassé en Bourgogne. Et c'est l'itinéraire de Thomasset qui est intéressant. C'est un intellectuel qui a fait une thèse de paléontologie à Strasbourg. Et puis peu à peu, il se sent attiré par le régionalisme, il se sent proche des romans régionalistes, il se sent proche de la géographie bourguignonne, de l'âme du terroir bourguignon, que défend au même moment Gaston Roupnel, par exemple. Et peu à peu, il va évoluer du régionalisme à la revendication d'une Bourgogne burgonde, germanique, et au rejet qu'on trouve dans les thèses de l'extrême droite de cette époque, au rejet du centralisme, de la France centralisatrice, des juifs évidemment et des communistes. Et on va le voir participer au congrès de Nuremberg, et évidemment c'est une figure qui tout de suite est repérée par les instances national-socialistes, qui vont en faire l'intellectuel, le bourguignon, l'âme, le poète de l'âme bourguignonne. Et Thomasset ira jusqu'à participer à l'invitation de Himmler au SS à Nuremberg, au siège de l'institut scientifique de la SS à Berlin. Il prononcera une conférence restée secrète.
L'héritage burgonde et la France.
Voilà, dans lequel il explique qu'en fait, que par ses origines prouvées par l'archéologie, ses origines germaniques, la Bourgogne est un pays de race qui appartient à la race germanique et qu'en conséquence, elle doit être rattachée purement et simplement au Reich.
Anti-républicain et anti-jacobin, Thomasset a pour motivation et avant tout le régionalisme. On peut faire une première typologie de ses collaborateurs en disant que c'est le régionalisme qui le pousse à s'orienter vers le nazisme.
Le régionalisme et puis aussi les idées de l'extrême droite, hein, le rejet du Front populaire, la stigmatisation de Léon Blum, il est animé par les textes les thèses de l'extrême droite de l'époque, mais il va basculer dans l'idéologie nazie et dans la revendication du fait nazi pour la Bourgogne.
Alors la Moselle est aussi bien sûr très intéressante, parce que frontalière bien sûr de l'Allemagne, avec deux archéologues, quelles sont leurs motivations?
Alors là on est dans un cas de figure différent, parce que la Moselle et ainsi que l'Alsace d'ailleurs sont rattachés de fait au Reich allemand, donc ce sont des nouveaux...
Et à l'organisation archéologique allemande.
Absolument, l'organisation archéologique allemande en services régionaux d'archéologie est transposée dans ces nouveaux territoires occupés, donc c'est très intéressant parce que, à la différence de la France occupée, on est dans le cas de territoires annexés au Reich. Et là, les autorités nationales socialistes vont chercher à s'appuyer sur la collaboration d'archéologues locaux. En Lorraine, ce sera Émile Delors et Marcel Lutz qui deviendront des collaborateurs du service d'archéologie et qui participeront aux fouilles menées par les services d'archéologie du Troisième Reich.
On ne peut passer sous silence l'anticommunisme de Marthe et Saint-Just Pécard, qui, eux, tous deux, rentrent dans la milice. Ça, rentrer dans la milice, c'est quand même un acte très particulier.
Bien sûr, mais c'est intéressant parce que en fait, il y a deux mondes qui se côtoient sans vraiment se mêler. Il y a le monde de l'archéologie nationale-socialiste dont on parle, et puis il y a le monde de l'archéologie de Vichy. Vichy a d'autres préoccupations idéologiques. Autant les Allemands s'intéressent à la proto-histoire et à la période du Haut Moyen-Âge pour démontrer que ce sont des vagues de peuplement germanique, autant le régime de Vichy s'intéresse à la promotion de la période gallo-romaine pour montrer qu'on a là l'exemple d'une intégration réussie lorsqu'un vaincu avoue sa défaite.
La paix après la défaite.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça obéit à des logiques qui sont des logiques idéologiques différentes, en fait.
Et la préhistoire semble assez promue. On se souvient de ce petit fragment de terre archéologique qui provient d'une grotte et qui est apporté à Gergovie parmi toutes les terres de l'Empire français, c'est bien ça, avec Pétain ?
Oui, c'est le comte Bégoin qui apporte la terre de la grotte des Trois Frères dans la fameuse cérémonie des terres dans laquelle toutes les terres de l'Empire, entre guillemets, de France sont réunies à Gergovie dans un cénotaphe.
Je parlais de Marthe et Saint-Just-Pécard. Il faut parler aussi peut-être de Passemard, la famille Passemard, préhistorien eux aussi, qui rentrent eux aussi dans la milice.
Oui, un grand préhistorien, hein, c'est le fouilleur du site d'Isturitz, hein, du grand site du Paléolithique supérieur. Et effectivement, Passemard est fusillé à la Libération, ce qui fait quand même beaucoup de morts dans le minuscule milieu de la préhistoire française des années 30 et 40.
L'anthropologie physique, que l'on dénomme aujourd'hui l'anthropologie biologique, est aussi touchée en France par ces thèses racistes. Quelques exemples du côté du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Institut de paléontologie humaine, Laurent Olivier ?
Oui, en particulier avec Raymond Vaufray, qui fait partie de la catégorie des intellectuels et des universitaires et qui s'enflamme pour le texte de Reinhardt en forme de manifeste, l'archéologie sous le Troisième Reich. Et dans l'anthropologie, dans la revue L'Anthropologie, il va mettre à la disposition des archéologues, des collègues français, la traduction de ces textes avec un commentaire personnel dans lequel il dit que on peut dire que c'est une archéologie nationaliste, certains s'en sont plaints, mais enfin, tout de même, c'est une archéologie moderne et la France ferait bien de suivre cet exemple dans lequel l'intérêt général prend le pas sur l'intérêt particulier, dit-il.
L'archéologie nazie ou fasciste chez les Français semble être systématiquement l'affaire d'intellectuels. Qu'en pensez-vous, Laurent-Olivier ?
Alors là aussi, c'est intéressant de considérer le milieu minuscule de l'archéologie des années 30 et 40.
150 personnes.
À peu près 150 personnes, essentiellement des autodidactes. Il y a peu d'enseignement de l'archéologie en France, en dehors de Paris.
Collège de France.
École du Louvre. Quelques enseignements à Nancy avec Goury, un enseignement à Toulouse, mais à part ça, rien. Et la majorité des archéologues sont donc autodidactes, beaucoup de gens d'origine populaire. Hein, en Champagne, on connaît Brisson, Lopin. Dans le Midi, on connaît les Tafanel, les vignerons Tafanel. Beaucoup d'instituteurs, de curés, l'abbé Favray. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la collaboration, ça implique des franges éduquées de ce public, et en particulier des universitaires.
Que doit-on, ou du moins que l'archéologie doit à l'État français et au régime de Vichy ? Tout ?
Presque tout, oui.
Presque tout ?
Presque tout. Sa législation sur l'archéologie, son organisation...
Loi de 1941, oui, loi Carcopino,
voilà,
instaurée donc sous Vichy, validée en 1945.
Voilà, organisation des ancêtres des services de l'archéologie que représentent les directions des antiquités.
Qui perdure ? Aujourd'hui, les services régionaux de l'archéologie, avec leurs conservateurs, sont les héritiers directs de cette politique de Vichy ?
C'est un héritage qui s'est lentement transformé, graduellement transformé. Ça, la page, je pense, a été tournée définitivement dans les années 90, ce qui est quand même relativement tard, quand on a réuni justement ces antiquités préhistoriques et historiques qui étaient séparées dans les services d'archéologie uniques. Et lorsqu'on a commencé à s'intéresser à une chose qu'on avait complètement oubliée, c'est l'archéologie d'outre-mer, c'est-à-dire non métropolitaine.
Et puis, bien sûr, il y a la fameuse revue Gallia, Gallia qui, bien sûr, existe et qui est une excellente revue. Après 1945, comme Georges Montandon, l'épuration touchera certains archéologues. Ceux dont on parle, bien sûr, généralement, donc curieusement, des archéologues, ce sera le cas, par exemple, de Saint-Just-Pécard et du couple Passemard qui seront fusillés. Comment s'en sortira Johannes Thomasset, notre Burgonde Bourguignon?
Johannes Thomasset, en fait, c'est un cas tout à fait fascinant parce que il sera, les Allemands lui proposent de s'enfuir à la débâcle. Mais lui est choisi de rester et donc il est donc arrêté et il est jugé. Et dans sa prison, il reçoit une lettre de soutien, enfin plutôt son avocat reçoit une lettre de soutien du fameux géographe Gaston Roupnel qui dit que c'est un grand enfant et qu'il n'a jamais voulu le mal. Il aura finalement une remise de peine et il sera amnistié. En fait, il échappe à la condamnation parce que son fameux discours de Berlin était resté à Berlin et n'était pas connu des services de police français.
En tout cas, beaucoup de chercheurs, comme Delors en Moselle, comme Marcel Lutz, continuent leur carrière, rentrent même, par exemple, en 1962 au CNRS. Juste un mot sur un archéologue allemand, capital. Le parcours de l'archéologue Herbert Juncken, officier SS de la 4e Panzerdivision Viking, une des plus décorées du 3e Reich, est le plus intéressant à mes yeux, parce qu'il continue, et éventuellement il continue en France.
Ben, il fait partie de ce que Christian Ingrao appelle les intellectuels d'action. Il est typique de ça et il est impliqué effectivement dans la grande guerre raciale que mène le Troisième Reich à l'Est. Après-guerre, il passera à travers les gouttes de la dénazification en bénéficiant du témoignage de son collègue qui dira qu'il n'a jamais fait partie du parti nazi. Et en fait, ces fouilles, les fouilles du fameux site viking de Aetabus, après avoir été financées par Himmler, seront financées par le Land du Schleswig-Holstein dès les années 60. Donc une continuité de carrière.
Mais on le retrouve aussi, par exemple, à l'Université de Lyon 3, dans le groupe du Grèce et de la revue Nouvelle École.
Oui.
Qui donc est, je dirais, le fer de lance de la nouvelle droite théoricienne des années 70-80.
Il est dans le comité de patronage, effectivement.
Le milieu archéologique français est-il encore réticent à accepter les implications idéologiques de la politique archéologique liée, bien sûr, à la Seconde Guerre mondiale? En quelques instants, Laurent Olivier.
Oui, évidemment. Lorsque, par exemple, on a voulu organiser ce colloque que vous évoquiez tout à l'heure, qui réunissait une vingtaine de spécialistes allemands, scandinaves, hollandais, sur la germanisation de l'ouest du Reich, dans le cadre du colloque des archéologues européens, cette session a été refusée par les organisateurs français. Et lorsque on l'a quand même réalisée, on nous a dit que c'était dommage, mais qu'il n'y avait pas de salle pour nous. Donc on a dû louer une salle à nos frais à l'université de Lyon. Et évidemment, on a oublié de mentionner la session. Donc quand on a publié les actes, on s'est dit qu'on ne pouvait pas publier ça en France. Donc on a été obligé de la publier en Suisse, comme au bon vieux temps, à l'époque de Voltaire.
Laurent Olivier, merci beaucoup. À lire donc absolument « Nos ancêtres les Germains, les archéologues au service du nazisme » paru donc chez Taillandier, mais aussi « L'archéologie nazie en Europe de l'Ouest » publié chez Infolio en 2007. La semaine prochaine, le Salon Noir sera consacré à l'homme de Denis Sauvage avec Jean-Jacques Hublin du Max Planck Institute de Leipzig. Le Salon Noir a été réalisé par Danny Journeau, à la technique Ariane Herbé, attaché d'émission Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien sûr écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.